Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. À ce micro, des experts viennent expliquer à quoi pourrait bien ressembler cette transition, avec de très nombreux sujets qui sont liés entre eux, mais dans chaque épisode, nous mettons la lumière sur les enjeux de l'un des secteurs clés du développement durable, et c'est de la protection de la haute mer dont nous allons parler aujourd'hui. Deux chiffres pour mesurer l'importance de ce dont on parle. La haute mer représente 64% de la surface des océans et la moitié de la surface du globe. Après une grande pause liée à la pandémie, les négociations mondiales ont enfin repris juste avant le printemps pour dessiner les contours d'un futur traité international sur la préservation et l'utilisation durable de la biodiversité en haute mer. Alors plongeons ensemble dans ce nouvel épisode des podcasts de l'IDRI avec Julien Rochette qui nous accompagne aujourd'hui. Il est le directeur du programme Océan de l'IDRI. Bonjour Julien Rochette.
Bonjour.
J'ai évoqué ces nouvelles discussions très importantes qui ont eu lieu à New York du 7 au 18 mars, c'est précis. C'est la quatrième session de négociation en vue d'aboutir à ce nouveau traité. Vous l'avez suivi avec votre équipe. D'abord, de quoi parle-t-on précisément ? La question, je pense, n'est pas du tout inutile. C'est quoi la haute mer ? Comment on définit la haute mer ?
Alors la haute mer, c'est l'espace marin situé au-delà des frontières des États, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on appelle la zone économique exclusive qui est située à peu près à 370 km des côtes. Donc c'est l'espace au-delà des frontières nationales qui appartient à tout le monde, qui appartient à personne, et sur lequel justement la coopération internationale est particulièrement nécessaire.
Ouais, j'allais dire, c'est un bien commun finalement sur lequel aucun pays ne peut revendiquer de souveraineté. Donc forcément, la gestion doit reposer sur la coopération. Pourquoi ? De quoi finalement la haute mer a-t-elle besoin d'être protégée aujourd'hui ?
Ben, pendant très longtemps, si vous voulez, la haute mer a été quelque peu désertée. D'abord parce qu'on ne connaissait pas grand-chose de la haute mer. On pensait même que les fonds marins étaient de vastes déserts puisqu'on ne connaissait pas l'existence d'une possible vie au-delà de la photosynthèse. Et puis, il n'y avait pas la technologie pour aller en haute mer. Et on se contentait, par exemple, d'exploiter les pêches, les ressources de pêche sur le milieu côtier. La situation a évolué à partir des années 90 fortement. D'abord parce qu'on a découvert l'exceptionnelle biodiversité que renferme la haute mer, les fonds marins, à travers les différentes découvertes scientifiques et les expéditions qui ont pu être menées. Et puis, aujourd'hui, la distance à la côte ou la profondeur des fonds ne constitue plus des obstacles infranchissables. C'est-à-dire que l'homme est capable d'aller exploiter la haute mer. Donc, cette conjonction d'une augmentation de la capacité de l'homme à pouvoir développer des activités en haute mer et la connaissance croisée de son exceptionnelle biodiversité font qu'aujourd'hui, on a un cadre de gestion qui est inadapté aux enjeux actuels.
Mais qu'est-ce qu'on exploite en haute mer ? De quoi il faut protéger ces zones de haute mer ?
Alors, il y a deux activités traditionnelles qui sont menées en haute mer. D'abord, le transport maritime. Vous savez que 90% des marchandises sont aujourd'hui transportées par voie maritime et donc traversent la haute mer. On a aussi de plus en plus vu l'amenuisement, la disparition des ressources halieutiques dans les milieux côtiers. On a de plus en plus de pêche en haute mer. Donc, on a une augmentation de ces activités traditionnelles. On a aussi de plus en plus des activités d'exploration, notamment des ressources minérales des fonds marins, alors là qui ne sont pas traitées dans le cadre du traité haute mer, mais qui existent aussi. Et puis on a les enjeux futurs sur lesquels on va devoir aussi répondre, par exemple l'offshore éolien, par exemple. Donc on a à la fois des enjeux actuels et aussi une nécessité d'anticiper tous les enjeux futurs de ce qui peut se passer en haute mer.
On entend parler de ressources marines génétiques qui seraient exploitées, c'est quoi ?
Alors, je suis juriste, je vais essayer de le faire de manière très simple, parce que ce n'est pas mon domaine, mais en gros, dans les fonds marins, on a des écosystèmes et des espèces qui ont réussi à se développer à des températures extrêmes, à des profondeurs extrêmes, sans luminosité. Donc elles renferment un patrimoine génétique et moléculaire particulièrement intéressant, notamment pour l'industrie pharmaceutique et pour la cosmétique. Il y a de plus en plus d'intérêt pour ces ressources parce qu'elles peuvent être ensuite brevetées pour devenir des médicaments ou des crèmes utilisables. Et donc, ces ressources marines génétiques, elles ont été découvertes assez récemment et surtout l'activité qu'on appelle la bioprospection, c'est-à-dire l'extraction de ces ressources marines génétiques, c'est une activité extrêmement nouvelle qui n'est absolument pas régulée en haute mer. Aujourd'hui, c'est premier arrivé, premier servi. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, non pas tant en matière environnementale, parce que ce n'est pas un grand problème, une grande menace sur l'environnement marin, mais qui pose des problèmes d'équité. Parce que là, on est dans un espace commun, la haute mer, et le principe premier arrivé, premier servi fait que les pays les plus, les industries les plus puissantes des pays développés peuvent s'approprier ces ressources génétiques et breveter et industrialiser. Et donc les pays du Sud cherchent justement à intégrer une dose d'équité à travers un mécanisme de régulation.
Le débat dans tout ça, c'est un peu, est-ce que ça appartient à tout le monde et il faut le préserver, ou est-ce que ça appartient à personne en particulier et tout le monde peut se servir ? J'imagine que vous avez un peu ce genre de débat.
Oui, c'est largement en ces termes que la question se pose, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'avant la négociation sur ce traité haute mer, on avait déjà un certain nombre d'organisations qui s'occupaient de la gestion, par exemple, des pêches en haute mer. Les thonidés, par exemple, les thons, espadons, etc., sont gérés de haute mer, sont gérés par des organisations internationales spécifiques.
Oui, la question de la pêche, d'ailleurs, ne fait pas partie de ce projet de traité.
Alors, elle ne fait pas directement partie du futur traité, qui comporte quatre grands piliers. Elle ne fait pas partie en tant que telle, la pêche, parce que beaucoup d'États pêcheurs s'y sont très très vite opposés, et que les négociations n'auraient pas pu s'ouvrir si la pêche avait été un élément déterminant et premier de ce futur traité. Néanmoins, la pêche, même si elle n'est pas traitée en tant que telle, en tant que pilier de l'accord, elle va forcément être impactée, ne serait-ce que parce que des aires marines protégées pourront être créées et que forcément ça impactera les activités.
Alors
de pêche.
Vous évoquez quatre piliers, quatre grands chapitres dans ces discussions. Vous pouvez nous les résumer rapidement?
Oui, alors le premier, c'est les ressources marines génétiques dont vous parliez tout à l'heure, et à la fois l'accès et l'utilisation et le partage des avantages qui va en découler. Les aires marines protégées.
Qui existe déjà.
Qui existe déjà, pas en haute mer malheureusement, puisque aujourd'hui on n'a pas de mécanisme international permettant la création d'aires marines protégées en haute mer. Donc on va créer ce mécanisme pour pouvoir remplir cet objectif. On a aussi des études d'impact environnemental, troisième pilier, et enfin le transfert de technologie et le renforcement des capacités qui est globalement les transferts, l'aide nord-sud.
Pourquoi a-t-on besoin d'un nouveau traité pour protéger la biodiversité de la haute mer ? Est-ce qu'il y avait un vide juridique qu'il fallait combler ?
Alors oui, parce que en fait, si on reprend le début des négociations et les débuts des discussions informelles, il y avait le constat partagé par l'ensemble de la communauté internationale qu'il y avait un problème de gestion de la haute mer, mais il y avait deux types d'États. Il y avait des États qui considéraient que le problème était juste uniquement dû au manque d'application des instruments existants, et d'autres groupes d'États qui ont très vite dit « mais non, attendez, on a besoin, au-delà de l'application de l'existant, on a besoin de nouvel accord ». Parce que, par exemple, les ressources marines génétiques, aujourd'hui, n'ont pas de statut juridique, et leur activité de bioprospection n'est pas régulée. Parce que, également, on ne peut pas aujourd'hui créer d'aires marines protégées en haute mer. Donc, on vient combler, effectivement, un certain nombre de vides juridiques et renforcer la cohérence du système. C'est bien l'objectif.
Des responsables d'ONG alertent que sans traité mondial ambitieux, dès cette année, en 2022, il sera impossible de créer des sanctuaires marins dans les eaux internationales, ni d'atteindre l'objectif de protéger 30% des océans d'ici 2030. Est-ce que vous, dans les discussions, dans les négociations, vous ressentez une urgence ?
On ressent, oui, sinon pour certains, une lassitude vu la longueur des négociations, puisque les négociations ont commencé depuis quelques années, mais que les discussions traînent depuis près d'une décennie. Et puis, on a le sentiment que, de la part de beaucoup de négociateurs, que 2022 est la bonne année, qu'il faut en terminer, que la pandémie a aussi considérablement ralenti le système, le processus de négociation, et on sent une volonté commune d'aller vers une finalisation en 2022.
Et on consacrera d'ailleurs bientôt un autre épisode avec vous, Julien Rochette, à la négociation en cours. Il y a encore pas mal de compromis à trouver sur ces questions que vous évoquiez. On rentrera un peu plus dans le détail. On vous retrouve très vite dans Cap sur la transition pour aller un peu plus loin sur ce sujet de la protection de la haute mer. Merci.
Merci.
Fin de cet épisode des podcasts de l'IDRI, vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcasts, sur le site de l'Institut bien sûr. N'hésitez pas à le partager et à envoyer vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, I2DRI. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.